en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier le professeur Soutou de m'avoir fait la confiance de m'exprimer devant cette honorable académie dédiée aux choses de l'esprit. J'ai connu effectivement le professeur Soutou à l'université Paris 4 pendant mes études. Et je voudrais aussi saluer parmi les académiciens mon éminent collègue, l'ambassadeur Jean-David Lévite et mon ami Bernard Stirne, ainsi que parmi les invités Florence Chaltiel, la rédactrice en chef de la Revue de l'Union Européenne, Guillaume Clossat, le président fondateur d'Europa Nova, Serge Sûr, le rédacteur en chef, professeur Serge Sûr, rédacteur en chef de la revue Questions Internationales. Voilà, alors je vais effectivement vous faire un exposé qui ne sera pas tout à fait un exposé officiel et qui sera aussi un peu un regard académique du fait qu'effectivement j'ai beaucoup fait de recherches, de publications, d'enseignements sur les questions européennes. Si vous souhaitez avoir des exposés ou des précisions sur la politique européenne de la France actuelle, je vous renvoie à l'interview que le ministre a fait le 9 mai dernier dans le Nouvel Observateur, et aussi à l'état des lieux régulier qui est fait de la part du président de la République et de l'Élysée sur l'ensemble de la mise en œuvre de ces propositions. C'est donc plutôt une prise de recul historique et de hauteur que je vais faire aujourd'hui, en commençant par remarquer une évidence, c'est que la France, pour la France, l'Europe est une évidence. C'est un pays continental, ça n'est pas une île comme le Royaume-Uni. Dans son histoire, elle a été en conflit avec tous ses grands voisins, que ce soit l'Angleterre, les guerres d'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse puis l'Allemagne. Et donc, par définition, la construction européenne en tant que projet de paix et de tout ce qui favorise la paix, le libre commerce, les valeurs démocratiques, répond aux aspirations profondes de la France et des Français après les deux désastres de la Seconde Guerre mondiale. Je renvoie d'ailleurs à une formule de Serge Sûr qui disait que l'Europe était un pays produit de pays vaincus. Et effectivement, c'était le cas de la France après la Seconde Guerre mondiale. La construction européenne est donc le produit d'une interaction entre l'Europe et les nations. Vous avez mentionné, professeur Soutou, le livre que j'ai écrit sur l'Europe et les nations, qui est en fait le produit d'une thèse que j'avais faite sous la direction de Serge Sûr, ici présent. La France projette sur l'Europe ses valeurs, ses préférences, ses intérêts, et elle est en même temps transformée par l'Union européenne. Mais pour ce faire, elle doit passer des compromis avec ses partenaires, en premier lieu avec l'Allemagne, et elle doit s'adapter, adapter son système institutionnel, adapter son économie, rentrer dans un jeu coopératif, collectif. L'européanisation de la France n'est pas complète, elle n'a pas d'ailleurs vocation à l'être. Cette européanisation est très forte dans le champ économique, elle est plus faible dans le champ de la sécurité, dans le champ identitaire, éducation et culture, dans le champ de l'organisation politique et administrative du pays. Le général de Gaulle disait que les nations n'ont pas vocation à se fondre dans l'Europe comme dans une purée de marrons. Et effectivement, pour la France, l'Europe est un prolongement naturel de son action, mais il est important que les Français se retrouvent dans la construction européenne. Or, le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel avait été perdu à 55% des voix, ce qui a montré un décrochage de l'opinion française par rapport à une Europe jugée trop élargie, trop libérale, où l'influence de la France apparaissait amoindrie. D'ailleurs, j'observe par exemple que l'anglais était devenu majoritaire dans les institutions européennes après l'élargissement de 1995. Alors, si on regarde aujourd'hui les sondages, je vais peut-être commencer par ça, avant de commencer le propos. En fait, les sondages sont contradictoires. D'un côté, vous voyez par exemple sur ce graphique que le soutien à l'euro en France est extrêmement fort. Donc, on voit la France... attendez, où est-ce qu'elle est? Oui, un petit peu à gauche de la moyenne européenne. C'est bien l'euro, là, hein, c'est ça. Voilà, entre l'Autriche et Chypre, 72% d'adhésion à l'euro. On voit que c'est bon, il y a mieux, mais enfin, le soutien à l'euro est extrêmement fort. Si on regarde aussi le soutien à l'appartenance à l'Union européenne, on voit que les Français soutiennent l'appartenance à l'Union européenne, là aussi dans des proportions extrêmement fortes. Alors j'essaie de trouver l'endroit où on est. Voilà, à droite de la moyenne, on est un petit peu en dessous de la moyenne, mais enfin on a quand même des valeurs très élevées. 64% des Français considèrent que la France a bénéficié de son adhésion à l'Union européenne. Si vous regardez une autre question qui est posée dans les sondages, est-ce que l'Union européenne est une bonne chose pour la France? Vous voyez que la courbe augmente et que par rapport à il y a 10 ans, on retrouve des valeurs aussi bonnes, voire supérieures à celles qui étaient le cas avant la crise de 2007. Donc ça, ce sont plutôt des choses positives. En revanche, quand on interroge les Français sur leur confiance dans l'Union européenne, eh bien là, on aperçoit qu'on est tout à fait à droite, pas loin des Tchèques, des Anglais ou des Grecs. 57% des Français ne font pas confiance à l'Union européenne, alors que dans beaucoup d'autres pays, et même dans la moyenne de l'Union européenne, il y a quand même une majorité qui soutiennent la confiance. Alors ça reflète peut-être une défiance générale des Français vis-à-vis de leurs institutions, de leurs responsables politiques et administratifs, mais ça s'applique aussi à l'Union européenne. Et le dernier graphique que je voudrais vous montrer, c'est celui qui est intéressant sur la question « Est-ce que ma voix compte dans l'Union européenne ?» Et là, on s'aperçoit que pour les Français, eh bien, une majorité des Français considèrent que leur voix ne compte pas, 51% contre 44%, alors que si vous regardez les Allemands, par exemple, ils sont à 70% à considérer que leur voix compte, et c'est le cas aussi de beaucoup de pays nordiques, mais aussi des Polonais ou des Luxembourgeois. Donc, il est important pour les responsables français d'être à l'écoute de l'opinion et d'essayer de définir au plus près une politique européenne répondant aux intérêts et aux aspirations du pays. Alors, j'exposerai brièvement dans un premier temps le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne, comment est-ce que la France défend ses intérêts. Ensuite, j'énoncerai cinq principes, trois principes que je qualifierais de principes de méthode, de forme, et deux principes de fond, la solidarité et la puissance. Je n'inclus pas l'attachement aux droits de l'homme, aux valeurs démocratiques, parce que ça va de soi, c'est le fondement même de l'Union européenne, et bien sûr, la France les défend quand ces valeurs sont menacées. Je ne vais pas non plus parler de toutes les préférences françaises ou de toutes les positions françaises, par exemple la préférence pour le nucléaire ou bien la préférence pour l'exception culturelle, qui est quelque chose que la France défend souvent dans les négociations, mais je pourrais y revenir. Premier point, donc, la France dans le système institutionnel européen. Alors, vous avez ici un graphique qui vous montre comment l'Europe fonctionne. La France influe dans le système européen, essentiellement par la chaîne de ce qu'on appelle le Conseil. Le Conseil, c'est l'endroit donc où sont représentés les États membres. Ça commence par le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est l'addition des chefs d'État et de gouvernement. C'est une sorte de chef d'État collectif de l'Union européenne. Il fixe les impulsions au plus haut niveau, ce qu'on appelle les orientations et les priorités politiques générales. Et il se réunit à peu près 4 fois par an, mais en fait souvent plus. Ensuite, nous sommes représentés dans le Conseil des ministres. Alors le Conseil, ce sont les ministres qui siègent. Il y a 9 formations différentes du Conseil. La plupart sont présidés par l'État en présidence tournante. Mais dans le domaine des affaires étrangères, depuis le traité de Lisbonne, c'est la haute représentante qui préside le Conseil affaires étrangères. Nous sommes aussi bien sûr présents dans l'échelon administratif, les diplomates comme moi. J'ai siégé dans un des groupes de travail qui est ici représenté. Alors, l'endroit très important pour prendre les décisions administratives, c'est le COREPER, le comité des représentants permanents. Le représentant permanent, c'est notre ambassadeur à Bruxelles auprès de l'Union européenne. C'est l'homme clé, l'homme charnière entre le système institutionnel européen et le système de décision parisien. Donc le COREPER, il y a deux formations. Il y a le COREPER 2, où siègent les ambassadeurs, le COREPER 1, où siègent leurs adjoints, chacun ayant une série de politiques à traiter, mais le plus important, c'est le COREPER 2, avec les ambassadeurs. Et puis il y a aussi un organe qui s'appelle le COPS, qu'on a créé en 2000, le Comité politique et de sécurité, qui traite des opérations de la politique et de sécurité et de défense commune, et qui traite aussi de questions diplomatiques, de politique étrangère européenne. Et là aussi, on a un ambassadeur. Alors le COPS, on est dans la gouvernance affaires étrangères, c'est-à-dire que le COPS a un président permanent, et non pas un président tournant, comme le COREPER 1 ou 2, ou bien beaucoup de groupes de travail. En dessous des ambassadeurs, vous avez les groupes de travail, qui sont représentés ici en violet. Donc ces groupes de travail, il y en a 200. Donc c'est une énorme machinerie, la machinerie européenne. Il prépare les décisions du Conseil qui remontent au COPS ou au COREPER, mais le COREPER est toujours l'échelon indispensable. Et ils ont, dans le domaine affaires étrangères de défense, une présidence permanente. Alors les instructions qui sont données à Bruxelles le sont par le Secrétariat général aux affaires européennes, le SGAE, qui s'est longtemps appelé le SGCI, qui avait été créé en 1948 au moment de la distribution des aides du plan Marshall, qui était un peu le point de départ de la coopération économique européenne. Et le SGAE donc, donne des instructions dans le domaine communautaire, mais dans le domaine de la politique étrangère et de défense, c'est directement le Quai d'Orsay qui donne des instructions au COPS ou bien au groupe de travail, parce que c'est considéré comme une affaire relevant d'abord des affaires étrangères. En pratique, les décisions les plus importantes sont prises au niveau des cabinets, parfois directement de la présidence de la République. Par exemple, récemment, la France a voté contre le démarrage de négociations commerciales avec les États-Unis. Bon, c'est évidemment une décision qui a été suivie au plus haut niveau. À côté de cette chaîne du Conseil, la France défend aussi ses intérêts et positions devant la Cour européenne de justice. Et là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui traite ces questions de contentieux et ces questions juridiques. Et puis, il y a aussi les parlements nationaux qui ont aussi un droit de regard sur la politique européenne. Ils sont présents dans une conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, la COSAC, et ils contrôlent le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de vérifier que les décisions n'empiètent pas de façon indue sur les compétences nationales. Et puis la France influe aussi dans la politique européenne à travers la présence de ses ressortissants dans les institutions européennes. Dans la Commission, il y a un commissaire par État membre, donc un Français, actuellement Pierre Moscovici. Dans le Parlement européen, 74 députés sur 751. Après le Brexit, ça va augmenter puisqu'on passera à 79 sur 705 sièges. Le secrétariat du Conseil, le service européen pour l'action extérieure. Dans la Commission, on a évidemment des tas de ressortissants, des directeurs, des administrateurs. On a aussi un juge par État membre à la Cour européenne de justice, deux juges par État membre au tribunal, qui juge en première instance. Et au total, donc, la France se retrouve avec une proportion d'environ 10 à 15% des administrateurs des institutions européennes, qui évidemment sont au service de l'Europe, ce sont des fonctionnaires européens, mais qui peuvent quand même relayer les sensibilités, les positions de la France. La France, par ailleurs, abrite le siège du Parlement européen à Strasbourg, même si, vous savez, ce siège est contesté du fait que ça occasionne beaucoup de déménagements entre Bruxelles et Strasbourg, dont se plaignent les eurodéputés. Alors j'en viens à mon deuxième point, c'est maintenant les principes de notre politique, que j'essaie de résumer donc sous la forme de 5 principes, en commençant par la relation franco-allemande, parce que cette relation est absolument centrale en Europe. Elle a été centrale dans le système européen interétatique depuis que l'Allemagne est unifiée en 1871. C'était évidemment l'antagonisme franco-allemand qui structurait les relations internationales en Europe. Et c'est le dépassement de cet antagonisme qui a permis de lancer la construction européenne. Le sens de la relation franco-allemande est triple. C'est d'abord la réconciliation. C'est ensuite une relation bilatérale privilégiée. Et c'est enfin une force de propositions, d'actions et de compromis dans l'Union européenne, qu'on appelle parfois le moteur franco-allemand. Alors la réconciliation, elle est évidemment historique, elle a permis le lancement du couple franco-allemand, ça a commencé avec Briand et Stresemann dans l'entre-deux-guerres, ensuite Adenauer-Schumann, De Gaulle-Adenauer avec le traité de l'Élysée, Giscard et Schmitt, Kohl et Mitterrand, vous voyez la photo de Verdun en 1984, Chirac et Schröder, Chirac avait invité Schröder sur les plages du débarquement en 2004, c'était à l'époque une novation. Et puis on a célébré aussi sous Jacques Chirac le 40e anniversaire du traité de l'Élysée en 2003. Sarkozy-Merkel avec la participation de Nicolas Sarkozy aux 20 ans de la chute du mur de Berlin. Et puis ensuite les couples Hollande-Merkel, Macron-Merkel. Alors la relation bilatérale privilégiée, elle date du traité de l'Élysée, 22 janvier 1963. Et vous savez que ce traité a été donc actualisé, complété le 22 janvier de cette année entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Alors la relation franco-allemande passe par des sommets qui sont des sommets biannuels, mais aussi par toute une série d'institutions communes, par exemple un office franco-allemand de la jeunesse, depuis qui a permis des échanges de 8 millions de jeunes entre les deux pays. Il y a un conseil franco-allemand de défense et de sécurité, un conseil franco-allemand économique et financier. On a créé un haut conseil culturel franco-allemand. On a créé la chaîne franco-allemande Arte, la brigade franco-allemande. Tout récemment, j'ai participé dans ma mission avec Jean-Marc Ayrault, là, on a créé un conseil franco-allemand d'intégration pour discuter les questions d'intégration entre nos deux pays. Donc tout ça permet de mieux se connaître, de travailler ensemble, de développer une confiance, des relations approfondies. La force de proposition et de compromis, ce qu'on appelle le moteur, donc, a été centrale dans le projet européen. Ça a commencé avec la CECA, Adenauer-Schumann, Giscard Schmitt, qui ont quand même mis sur les rails l'union monétaire à travers le système monétaire européen, Mitterrand et Kohl, qui ont lancé Schengen et puis encadré la réunification allemande par le traité de Maastricht et le lancement de la monnaie unique. Si on regarde Jacques Chirac et Gerhard Schröder, ils ont fait en 2002 un accord historique sur la PAC qui a permis l'élargissement de l'Union européenne et en même temps a sauvé la PAC, donc ce n'était pas négligeable comme accord. Ils ont beaucoup travaillé ensemble dans la Convention européenne. On a vu le couple Sarkozy-Merkel à l'œuvre pour sauver le traité de Lisbonne en 2007, pour agir dans la crise de la zone euro. On a parlé même de Merkozy à l'époque. Alors la force du travail franco-allemand, c'est d'être en fait à la fois un levier de puissance et en même temps un dépassement des contradictions européennes. Un levier de puissance parce que les deux pays ont toujours représenté une force centrale. Si on additionne les deux pays, c'est évidemment le cas dans l'Europe des 6, mais si on prend aujourd'hui l'Europe des 28 ou 27 sont les Anglais, la France et l'Allemagne représentent plus de la moitié du PIB de la zone euro. Et un tiers, après le départ des Anglais, de la population de l'Union européenne. Ce qui fait qu'ils ont tous les deux presque une minorité de blocage selon les critères de la majorité qualifiée. C'est quand même pas négligeable. Et en matière diplomatique, on voit les pays travailler ensemble sur toutes les grandes crises. Prenez le format Normandie, par exemple, sur la crise ukrainienne depuis 2014. Ou bien le rôle du E3 sur l'Iran, France, Allemagne, Royaume-Uni. Le rôle du Quint dans les crises balkaniques, la France et l'Allemagne y sont, pas tout seuls, mais enfin voilà. Donc une force commune et en même temps un dépassement des contradictions européennes parce que les deux pays partent de points de vue différents et souvent, quand ils arrivent à se mettre d'accord, ça crée des compromis pour l'ensemble de l'Union. Alors, quelques exemples, hein, dans le domaine institutionnel, le centralisme français s'oppose au fédéralisme et au parlementarisme à l'allemande. Et donc, il faut trouver des compromis entre ces deux visions. Dans le domaine économique et social, l'Allemagne, évidemment, plaide la compétitivité et la rigueur, quand la France est plutôt attachée aux politiques publiques et à la solidarité, j'y reviendrai. Dans le domaine diplomatique, la France défend l'usage de la force militaire, de la volonté politique, quand l'Allemagne est davantage attaché à l'idée d'une puissance civile et attaché aussi au multilatéralisme. En même temps, le rôle de la relation franco-allemande apparaît depuis la réunification doublement fragilisée. Là, je vous parle, je dirais, un petit peu en sortant du discours officiel. Prends plus ma casquette d'analyste. On en a souvent parlé avec le président Soutou. D'une part, dans une Europe élargie, le moteur est nécessaire mais non suffisant. C'est-à-dire que les deux pays ensemble ne peuvent pas toujours parfois entraîner tous leurs partenaires. Un bon exemple, c'était leur opposition dans la guerre contre l'Irak en 2003. La France et l'Allemagne ont pris une position d'hostilité, de refus de la guerre face aux États-Unis, et 18 pays, membres ou futurs membres de l'Union européenne, ont pris position pour la position américaine. Donc il faut inscrire le franco-allemand dans un jeu plus complexe, où il faut travailler avec les partenaires, travailler dans le système institutionnel européen, prendre en compte le droit européen. Donc tout cela, évidemment, prendre en compte le Parlement européen aussi, tout cela est plus compliqué que de faire des choses ensemble à deux. D'où le fait aussi que les deux pays ne peuvent pas s'enfermer dans une exclusivité. En fait, la France doit cultiver, comme le fait l'Allemagne, ses relations avec l'ensemble de ses partenaires. C'est le cas, par exemple, du Royaume-Uni, notamment sur les questions politico-militaires et diplomatiques. L'Italie et l'Espagne, il y a des sommets annuels avec l'Italie et l'Espagne considérés comme des partenaires importants, mais aussi la Pologne, et puis ce qu'on appelle les pays du groupe de Visegrad. En ce moment, la France essaye de renforcer ses relations avec ces pays parce qu'il y a beaucoup de sujets de friction. Donc les pays du groupe de Visegrad, c'est en fait la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que France-Allemagne ne suffit pas. Et deuxième problème, c'est que l'équilibre de la relation est menacé depuis la réunification. Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller pour la sécurité nationale de Jimmy Carter, avait inventé une formule assez brillante pour décrire l'équation du franco-allemand. Il avait dit, donc c'était en 1997, « Dans la construction européenne, la France vise la réincarnation et l'Allemagne la rédemption. » Alors, est-ce que cette formule aujourd'hui, au XXIe siècle, est toujours valable ? En tout cas, elle est probablement moins pertinente qu'avant. Et je ne sais pas s'il faut dire, comme Hubert Védrine, qu'il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain décrochage, un risque de décrochage lié à l'accroissement de la puissance allemande, sur le plan notamment économique, le fait que l'Allemagne a une population plus importante, qu'elle a une bonne santé budgétaire. Hein, quand on regarde les courbes des dettes, avant la crise, on avait un niveau de dette équivalent à l'Allemagne. Maintenant, on est à 100% du PIB, ou presque, et les Allemands sont revenus à 60%. Et puis, on voit une Allemagne devenir peut-être plus souverainiste, peut-être plus gaullienne. On l'a vu, par exemple, avec l'arrêt sur la cour de Karlsruhe sur le traité de Lisbonne, plus puissante par l'économie, plus puissante dans les institutions européennes. Tout ça, évidemment, pose une vraie question par rapport au décrochage. On voit aussi une Allemagne tournée vers la Mitteleuropa et qui est tentée de laisser jouer les rouages de la puissance. Quoi qu'il en soit, la France doit entretenir et nourrir cette relation franco-allemande que Jacques Delors a un moment qualifié, je crois que c'était en 2011, d'arbre de vie de la construction européenne. Lorsque, en 2000 et 2001, il y a eu une crise assez forte de la relation franco-allemande avec les sommets de Berlin et de Nice, l'affrontement à Berlin, c'était sur le financement de l'Union européenne, le sommet de Nice, c'était sur la question de la repondération des voix au Conseil, eh bien, la France et l'Allemagne ont éprouvé le besoin, après ces deux sommets de crise, de relancer leur coopération et leur dialogue. Elles ont lancé ce qu'on appelle le processus de Blesheim, qui visait en fait à accélérer les consultations entre les deux pays pour essayer justement de surmonter toutes ces difficultés et ces contradictions. Et comme je le disais tout à l'heure, le président de la République, Emmanuel Macron, a placé sa politique européenne sous le signe de la coopération franco-allemande. Il l'a fait très vite et c'est ce qui a débouché sur ce traité d'Aix-la-Chapelle, qui n'est pas un traité révolutionnaire, qui met à jour le traité de l'Élysée, qui le complète, mais qui crée par exemple une clause de défense collective. On en avait souvent parlé entre les deux pays, maintenant elle est sur le papier. un comité de coopération transfrontalière, un conseil franco-allemand d'experts économiques et une assemblée parlementaire franco-allemande. Alors, j'en viens maintenant à mon troisième point, le projet avant l'élargissement. Ça, c'est une exigence que la France a toujours posée, c'est-à-dire que pour la France, la cohérence du projet, la cohésion européenne est toujours passée avant les décisions sur l'élargissement. D'où, alors peut-être que ça renvoie à notre propre histoire, où la souveraineté française s'est construite à l'intérieur de frontières fermées, dans un espace fermé. Donc le souhait de construire une souveraineté européenne, comme dit le président de la République, à l'intérieur d'un espace fermé est très présent dans l'imaginaire et dans les têtes. Ça a commencé, cette réticence sur l'élargissement, avec le double veto du général de Gaulle à l'adhésion du Royaume-Uni en 1963 et 1967, quand il pensait que le Royaume-Uni serait le cheval de Troie des États-Unis dans la communauté. Et puis ensuite, en 1969, après le départ du général, s'est mise en place une équation achèvement, élargissement, approfondissement. C'était le programme du sommet de La Haye en 1969, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord achever le marché commun et les politiques communes pour ensuite élargir et conduire à un élargissement. C'est comme ça qu'on a mis en route le projet d'union européenne, le projet d'union monétaire, le projet d'union politique. À chaque fois, les élargissements ont coïncidé avec des approfondissements. Prenez l'élargissement méditerranéen, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Il a été accompagné du lancement du marché unique et de la coopération Schengen. L'élargissement aux pays nordiques, aux pays neutres pendant la guerre froide, Autriche, Suède, Finlande, a suivi le traité de Maastricht. Et l'élargissement au PECO, qui est intervenu en 2004 et 2007, 2013 pour la Croatie, a été accompagné du projet de constitution européenne qui est devenu le traité de Lisbonne. Après le référendum raté de 2005, la France a fait reconnaître en 2006 le concept de capacité d'intégration. La capacité d'intégration, dans les documents qu'on avait adoptés à l'époque à Bruxelles, c'était l'idée que c'était pas un critère d'adhésion, comme peuvent l'être par exemple les droits de l'homme ou la capacité à résister aux forces de la concurrence économique, mais c'était en fait un déterminant ou un facteur du rythme de l'élargissement. C'est-à-dire qu'on ne remettait pas en question l'élargissement par la capacité d'intégration, mais on attendait de réussir notre intégration ou d'aller en avant dans l'intégration avant de faire de nouveaux élargissements. Ce qui fait que l'élargissement, d'ailleurs, s'est ralenti, puisque depuis 2013, il n'y a pas eu de nouveaux élargissements. Toute la commission Juncker a clairement dit depuis le départ, on ne fera pas d'élargissement. Et on a continué, du côté français, à poser la question des frontières de l'Europe. Par exemple, le président Sarkozy avait voulu poser cette question en arrivant au pouvoir en 2007. Une commission s'est réunie, la commission dirigée par Felipe González, mais elle n'a pas répondu à cette question, qui n'a pas de réponse définitive. Aujourd'hui, il y a une convergence franco-allemande sur de nouveaux élargissements à l'Est pour dire qu'on ne veut pas de nouveaux candidats. Ukraine, Moldavie, Géorgie, pas question de donner à ces pays une perspective européenne, même dans l'OTAN. Alors dans l'OTAN, on a été un peu plus loin, mais en tout cas, on ne souhaite pas hâter leur adhésion. Plus largement, il y a au Conseil une majorité de pays qui sont prudents sur la poursuite des élargissements. Alors les pays qui sont concernés par les futurs élargissements, c'est les pays des Balkans occidentaux et la Turquie. Les Balkans occidentaux, une perspective européenne leur a été donnée en 2000. Et la candidature de la Turquie a été acceptée en période de cohabitation, d'ailleurs, par deux dirigeants de bords opposés, Jacques Chirac et Lionel Jospin, en 1999. Des négociations d'adhésion ont démarré en 2005, mais, comme vous savez, elles sont actuellement très, très ralenties, pour ne pas dire qu'elles sont presque arrêtées. Toutefois, aujourd'hui, on a des différences avec nos partenaires sur la question des Balkans occidentaux, puisqu'il est question d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine, et les Français sont plutôt sur une position réservée, un peu sur la défensive par rapport à nos partenaires sur cette perspective d'élargissement. tout en freinant, ou en tout cas en souhaitant accompagner l'élargissement de progrès dans l'intégration, la France a eu aussi souvent la tentation d'un noyau dur en Europe. Le noyau dur, alors cette idée, en fait, bon, on la trouve déjà par exemple dans la coopération Schengen, puisque Schengen en 1985 est lancé par la France, l'Allemagne et les trois pays du Benelux. Mais le concept de noyau dur, Kern Europa, a été lancé en 1994 dans un papier de Schäuble et Lammers, deux hommes politiques de la CDU. La France répondant à l'époque, par la voix du Premier ministre Édouard Balladur, qu'il fallait faire plutôt la théorie des cercles. Un cercle de l'Union européenne, un cercle de pays associés et des cercles de coopération renforcée à quelques-uns. Le président Chirac a parlé en 2000 de groupes pionniers dans son discours au Bundestag, donc des groupes qui iraient de l'avant. Mais il y a eu aussi des propositions, par exemple, d'union franco-allemande, alors qui n'ont jamais trouvé de répondant du côté allemand d'ailleurs, mais des dirigeants socialistes français l'avaient proposé en 2001 et Dominique de Villepin avait repris cette proposition en 2003. Dans le domaine de la défense, on a prévu une coopération structurée permanente qui a vu le jour après le traité de Lisbonne en 2017, mais en réalité on n'a pas réussi à restreindre cette coopération puisqu'on se retrouve in fine avec 25 pays sur les 28. Et on a aussi voulu lancer en 2018, ça c'était une proposition d'Emmanuel Macron, une initiative européenne d'intégration hors traité pour essayer d'être plus opérationnel, de développer une culture stratégique commune sur les questions de défense. L'élargissement à l'Est n'a pas mis fin à l'espoir d'une Europe plus resserrée. On trouve cet espoir dans les propositions du président de la République d'un budget pour la zone euro. Donc il avait fait des propositions en ce sens dans la campagne électorale et ensuite après avoir pris ses fonctions. Tout récemment, il vient encore de proposer un espace Schengen rétréci. Donc on voit toujours cette tentation du côté français de resserrer le format du projet européen pour avoir un projet plus ambitieux. Quand les Anglais ont décidé de sortir, les Français ont pris une position ferme consistant à dire que dehors, ça voulait dire dehors, donc il faut mettre en œuvre le retrait et ne pas prolonger indéfiniment les négociations du Brexit. On a vu cette position française se heurter d'ailleurs à un certain nombre de pays au dernier Conseil européen. Un souci français de défendre l'intégrité du projet pour éviter que le Brexit ne dure trop longtemps et remette en question ce projet européen. Et puis, on a remis à l'ordre du jour depuis 2016 l'ambition d'une Europe qui protège et d'une souveraineté européenne. Depuis 2017, c'est le concept de souveraineté européenne qu'a porté Emmanuel Macron. Alors, troisième principe de méthode, faire l'Europe sans défaire la France. C'était une phrase qu'avait employée Georges Bidault et qui a été reprise par Lionel Jospin. Ça veut dire au fond que la France accepte l'intégration européenne, accepte une dose de supranationalité, mais souhaite néanmoins maintenir une voie, une position propre dans la construction européenne. Probablement que c'est l'héritage d'un millénaire d'histoire de la France, où la France s'est construite par la volonté politique et elle souhaite maintenir cela dans le fonctionnement européen face à une Allemagne qui est peut-être plus, qui pense plus en termes de supranationalité, de fédéralisme. Et donc, on trouve dans cette position, dans plusieurs positions françaises. Par exemple, sur la majorité qualifiée, les Français n'ont pas tout de suite accepté le principe de la majorité qualifiée. C'était la crise de la chaise vide en 1965 avec le général de Gaulle. François Mitterrand a accepté qu'on puisse recourir à la majorité qualifiée pour le marché unique en 1986. Ensuite, avec Maastricht, cette majorité qualifiée, la codécision du Parlement a été accrue. Mais on a toujours maintenu une certaine prudence, notamment sur les questions de politique étrangère, parce que ça touche évidemment au cœur de la souveraineté nationale. Dans le domaine juridique, on voit aussi que la France a mis du temps à accepter la supranationalité du droit européen. Alors, je ne vais pas détailler, parce que je n'ai pas le temps, tout tous les arrêts de la Cour et ensuite les arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Peut-être que Bernard Stiern voudra y revenir tout à l'heure. Mais le Conseil constitutionnel a mis du temps aussi à accepter qu'on puisse empiéter sur la souveraineté nationale. Mais depuis le traité de Maastricht, en 1992, on a mis dans les traités, ancré dans les traités, que le droit européen, les traités européens font partie de notre ordre constitutionnel. Et donc, il n'y a plus de contradiction entre notre constitution et la politique européenne. La création du Conseil européen en 1974 a institué un pilier intergouvernemental face au pilier communautaire qu'on avait mis en place avec les trois communautés. Alors, ce pilier intergouvernemental servait notamment, avec le Conseil européen, qui a été créé en 1974, à piloter la politique étrangère européenne, c'est-à-dire la coopération diplomatique. Et le Conseil européen a été la clé de voûte des institutions de Maastricht, donc les trois piliers, le pilier communautaire, la politique étrangère commune et la coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité. En 2002, au moment de la Convention européenne, il y a eu une proposition de trois pays qu'on appelle des pays à gouvernement fort, centralisés, la France, l'Angleterre et l'Espagne, la proposition ABC, Aznar, Blair, Chirac, visant à créer un président du Conseil européen, un président permanent, face aux Allemands qui nous disaient « il faut renforcer la parlementarisation des institutions européennes et la politisation des institutions, avoir une sorte de commission qui émanerait du Parlement européen ». Donc ça, c'est une position française qui croit dans l'intergouvernemental. La France a aussi souhaité resserrer le format de la Commission européenne. Emmanuel Macron a repris cette proposition. 15 commissaires au lieu de 27-28 aujourd'hui. Elle a voulu instaurer un gouvernement économique de la zone euro. Un eurogroupe a été fondé en 1997. Ensuite, en 2008, on a créé des sommets de la zone euro sous Nicolas Sarkozy. Et l'idée, c'était notamment du point de vue français que le pacte de stabilité budgétaire ne doit pas être piloté selon une logique aveugle, selon le seul empire des règles, mais aussi selon la volonté politique. En matière de politique étrangère et de défense, l'intergouvernementalité est évidemment essentielle. Elle s'exprime par le fait que dans le Conseil Affaires étrangères, les décisions sont prises à l'unanimité. Et par le fait que la France est une puissance diplomatique, qu'elle est dans des formats resserrés et elle peut prendre des initiatives dans ces formats. Prenez la négociation sur l'Iran, elle est pilotée par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, avec le service diplomatique européen, mais la France joue un rôle clé, même chose dans la crise ukrainienne avec le format Normandie. J'en viens maintenant à la solidarité, qui est le premier principe de fond de la politique française, qui renvoie bien sûr à notre devise, liberté, égalité, fraternité. Si on regarde les nations européennes et leurs préférences, la France est caractérisée, si vous lisez Emmanuel Todd, par le trait égalitaire de sa famille, un peu comme les pays méditerranéens ou les pays slaves, ce qui s'oppose au trait inégalitaire qu'on retrouve dans les pays germaniques ou anglo-saxons où domine l'esprit de compétition. Le souci français a donc toujours été de combiner la compétition, le libéralisme, avec la solidarité, la redistribution, la politique économique, dans une tradition keynésienne qui s'oppose à l'ordolibéralisme allemand, quand je vous parlais des deux visions différentes. Au moment du marché unique, Jacques Delors a cherché une synthèse qu'il avait résumée dans cette formule « la compétition qui stimule », la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. C'était le lancement du marché unique et des politiques qui l'ont accompagné, notamment la politique de cohésion. Alors ces idées françaises, ces positions françaises, on les retrouve déclinées dans plusieurs positions particulières. Par exemple, la défense d'un budget européen plus ambitieux, d'un budget pour la zone euro. Le refus du principe du juste retour, qu'on retrouve souvent chez les économistes français et aussi dans nos positions officielles, c'est-à-dire qu'on réclame, on refuse la logique qu'avait imposée à l'époque Margaret Thatcher, « I want my money back », donc on calcule le juste retour. Et aujourd'hui, on demande la fin des rabais après le Brexit. On défend des politiques de solidarité dans le budget européen, que ce soit la politique agricole commune ou la politique régionale. On défend une Europe sociale. Actuellement, par exemple, les propositions françaises comprennent la proposition d'un bouclier social avec un salaire minimum dans chaque pays en fonction du salaire médian, ou bien la révision du travail détaché pour imposer le principe salaire égal à travail égal sur le même lieu de travail. On promeut également le juste échange, fair trade en anglais, le principe de réciprocité dans la politique commerciale. On souhaite une zone euro qui maintient son intégrité, pas question de faire sortir des pays, comme on l'a dit à un moment donné, de la Grèce, avec un compromis entre responsabilité et solidarité, les Français ayant souvent poussé dans le sens de la solidarité. Et cette exigence de solidarité, vous la retrouvez aussi aujourd'hui dans l'accueil des réfugiés, puisque la France fait partie des pays qui demandent des mécanismes de solidarité dans la répartition des réfugiés. Alors, ces valeurs de solidarité, d'attachement à la puissance publique, ces théories, cet attachement aux théories keynésiennes, ce sont plutôt des valeurs de gauche. Beaucoup de textes ont été adoptés quand des gouvernements de gauche étaient au pouvoir en France. Par exemple, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs en 1989. En 1997, on a rebaptisé le pacte de stabilité et de croissance. En 2012, on a adopté aussi un pacte pour la croissance et l'emploi pour accompagner le nouveau traité budgétaire. Et puis le mécanisme obligatoire de relocalisation des réfugiés a été adopté sous François Hollande. Mais il y a eu aussi des gouvernements de droite qui ont plaidé pour le maintien de politiques ambitieuses dans le budget européen. Je pense à la politique régionale, par exemple, dont Michel Barnier a longtemps été un défenseur, et la politique agricole commune, ou bien pour le maintien de la Grèce dans la zone euro. C'était une position très forte de Nicolas Sarkozy. Le président Emmanuel Macron inscrit beaucoup de ses propositions dans cette logique de solidarité, y compris une solidarité vis-à-vis de l'extérieur, par exemple le renforcement de Frontex, le domaine de la défense et de la sécurité, la réciprocité commerciale ou une taxe sur les géants du numérique. Dernier principe, le principe de la puissance, l'Europe puissance. Alors la France a fait une conversion géopolitique, ayant perdu son statut de grande puissance avec la Seconde Guerre mondiale, elle a reporté d'abord sur son empire, puis ensuite sur l'Europe, le maintien d'ambitions mondiales. C'était l'espoir du général de Gaulle avec ses propositions d'union d'État, les plans Fouché. Dans les années 70, quand Henry Kissinger se faisait l'avocat d'un monde multipolaire avec plusieurs pôles de puissance, eh bien, l'Europe a commencé à se penser comme un acteur mondial, acteur diplomatique, projet d'union monétaire, d'union européenne. L'Europe a été perçue comme un multiplicateur de puissance. C'est un peu ce que disait Brzezinski quand disait que la France cherchait la réincarnation dans le projet européen. C'était le grand pari maastrichtien, rêvé par François Mitterrand et poursuivi par Jacques Chirac, qui est celui à avoir le plus évoqué les termes d'Europe puissance. Je vous renvoie à un article qu'a écrit votre président dans un livre sur l'Europe de la défense. Alors, comment se décline cette Europe puissance? D'abord, c'est une Europe puissance industrielle et technologique. L'Europe est un moyen de nous renforcer notre compétitivité, notre poids, notre influence, notre dimension dans le domaine mondial. Airbus, Ariane, le programme Eureka, le CERN, Galileo, l'avion A400M. Donc tous ces projets, ces grands projets européens, nous ont permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Aujourd'hui, on parle de puissance d'innovation. On veut une souveraineté européenne dans le domaine numérique, industriel, technologique. Regardez ce qui vient de se passer après l'échec de la fusion Alstom-Siemens, avec la proposition franco-allemande, Bruno Le Maire, Peter Altmaier, d'une politique industrielle plus ambitieuse, qui est en train de prendre forme dans le domaine des batteries, pour essayer de rattraper le retard européen. Deuxième élément de l'Europe puissance, le fait que la France a toujours voulu renforcer la diplomatie européenne. Mais renforcer la diplomatie européenne, ce n'est pas forcément voter à la majorité qualifiée. Actuellement, la position des autorités françaises est un peu plus ouverte sur le sujet, et elle a été d'ailleurs pendant la Convention européenne en 2002-2003. Mais ce qu'on a d'abord cherché à faire, c'est renforcer le contenu des politiques, se mettre d'accord pour des positions fortes, y compris quand il s'est agi de créer un haut représentant en 1997, dont on a renforcé le pouvoir par le traité de Lisbonne. Alors, au sein de cette politique étrangère européenne, les Français portent des priorités. Ils sont tournés vers la Méditerranée, tournés vers l'Afrique, là où beaucoup de nos partenaires sont plutôt tournés vers l'Est. Donc, effectivement, ça suppose des compromis, mais on a nos priorités, nos préférences, nos intérêts qu'on essaie de faire porter aussi par l'Europe. Troisième élément de l'Europe puissance, c'est l'Europe de la défense. Alors, la France a essayé, à la fin de la guerre froide, après l'échec de la Communauté européenne de défense, de promouvoir l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale. Alors, ce n'était pas, à l'époque, effectivement, un énorme succès. L'UEO devait devenir, selon le traité de Maastricht, le bras armé de l'Union européenne. Mais à partir du moment où l'UEO n'a pas eu énormément de succès, on est passé en fait à un autre cheval qui est l'Union européenne. On a doté l'Union européenne elle-même d'une politique de défense et de sécurité. C'est comme ça que l'Europe a pu lancer à partir de 2003 ses premières opérations de terrain dans le domaine civil et militaire. Il y en a eu plus de 30. Il y en a actuellement, vous voyez le graphique 16, le schéma 16 opérations en cours, 6 militaires, 10 civils. Et donc, ces opérations ont permis de faire pas mal de choses un peu partout, en Afrique, dans le Caucase, en Europe orientale. Il y a même eu une opération en Indonésie, à un moment donné, en 2005, à Aceh, en Indonésie, après la fin du conflit à Aceh. Et puis, à côté de ces opérations, la France a aussi poussé le renforcement capacitaire de l'Europe de la défense depuis 2013-2016, puisque désormais, ce qui est un peu une révolution copernicienne, la Commission européenne s'occupe de défense, ce n'était pas le cas avant 2013-2016, et des fonds communautaires sont affectés à des projets de recherche militaire ou de développement capacitaire en matière de défense. Et on parle même d'un montant énorme de 13 milliards d'euros pour la période 2021-2027, donc ce n'est pas du tout négligeable. Alors, cette politique de puissance européenne, elle a eu des succès, elle a permis des succès sur le plan des capacités, des moyens d'agir en commun. Mais évidemment, on est toujours confronté à une certaine inefficience de notre action militaire européenne, de notre organisation militaire européenne. Les Européens dépensent à peine plus d'un tiers de ce que dépensent les Américains sur leur défense, à peine plus d'un tiers. Et leur effort est complètement émietté avec 180 systèmes d'armes contre 30 aux États-Unis. Donc il y a un effort énorme à faire pour renforcer notre efficience, notre efficacité, développer des projets en commun, d'où toutes les initiatives qui ont été lancées dernièrement sur ce domaine. En matière diplomatique et opérationnelle, le bilan apparaît plus limité. Dans les Balkans, c'est grâce à l'OTAN et aux États-Unis qu'on a pu mettre un terme au conflit de l'ex-Yougoslavie. Mais ensuite, l'Europe a joué un rôle croissant. Aujourd'hui, la mission la plus importante, c'est en Bosnie, l'opération EUFOR Althea, depuis 2004, qui permet d'européaniser les Balkans et d'essayer de stabiliser la zone avec des moyens européens. La politique de voisinage lancée en 2002-2003 à l'Est et au Sud a eu des résultats limités. À l'Est, elle a été confrontée à la résurgence de la Russie. Au Sud, à toutes les difficultés, l'impasse du conflit israélo-palestinien, les printemps arabes qu'on n'a pas forcément tous maîtrisés, qu'ont fait la Libye et la Syrie. Les opérations de la PSDC aujourd'hui, c'est 5000 personnes, dont en fait 3000 militaires. Si vous comparez aux 20 000 hommes de l'OTAN ou aux 100 000 hommes des Nations Unies, on voit que l'Europe reste quand même un acteur modeste. L'ambition d'une Europe puissance s'est affaiblie depuis 2005-2007 sous l'effet d'une part de l'élargissement et d'autre part du fait que certains de nos partenaires ont du mal à penser l'Europe comme une puissance militaire, un acteur militaire. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'avancer sur ces sujets. Si vous regardez la présidence française de l'Union européenne, je parle sous le contrôle de Jean-David Lévite, elle a été l'occasion d'une action très efficace dans la gestion des crises. Par exemple, dans le conflit russo-géorgien, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait la médiation entre la Russie et la Géorgie. Ça a permis à l'Union européenne d'accompagner la désescalade de ce conflit, de déployer une opération de terrain, qui est d'ailleurs toujours présente aujourd'hui. Donc, elle a agi comme acteur. Hein, ce n'est pas du tout négligeable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de présidence tournante. La France aura la présidence en 2022, mais elle ne pourra pas faire ça comme elle a pu le faire en 2008. Alors, nous conservons, le président de la République conserve l'ambition d'une souveraineté européenne, d'une puissance européenne. Le président a dit dans son discours de la Sorbonne que la souveraineté européenne, c'est notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Mais évidemment, l'Europe ne peut pas, ou la France ne peut pas miser uniquement sur l'Europe. Il faut bien qu'elle combine aussi l'action européenne avec ses propres objectifs, sa propre situation, ses propres moyens, ses propres intérêts. La France est un pays maritime, une puissance globale aux intérêts mondiaux, comme le montre son statut de puissance nucléaire, son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ses possessions outre-mer, ses liens privilégiés avec les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, tous les liens que nous avons avec l'univers francophone. Il lui faut donc articuler sa position, ses positions, ses intérêts, sa politique, son autonomie, sa volonté avec l'action européenne, comme elle le fait par exemple dans la crise ukrainienne, avec la combinaison Format Normandie-Union européenne, ou bien au Sahel, où la France est présente par l'opération Barkhane, mais aussi, il y a aussi une action européenne en matière de développement et d'opération de la PSDC. Pour conclure, la France s'est européanisée dans la construction européenne, mais elle ne cesse pas d'avoir des intérêts, des priorités, des préférences, des sensibilités qui peuvent différer des autres États membres. La relation franco-allemande reste centrale, mais elle n'a jamais été une donnée acquise d'avance. Elle doit être sans cesse réaccordée pour pouvoir fonctionner. Face aux difficultés, il y a trois impératifs. D'abord, redresser la France. Compétitivité, compte public, cohésion sociale, confiance et morale. Deuxièmement, garder des ambitions pour l'Europe et y exercer toute notre influence. Troisièmement, garder pour nous-mêmes une capacité d'action autonome. Je ferai mienne pour conclure une formule que j'ai trouvée dans une note d'un ancien directeur de l'Union européenne, Pierre Lévy, en 2015. Il n'y a pas de France forte dans une Europe faible, pas d'Europe forte sans une France forte. Merci, Monsieur le Président.